faire la différence.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, c'est maintenant.
Ah, la France. Le pain chaud. Voilà, je monte dans ma voiture, je vais chercher mon pain chez mon boulanger. Bien fariné, bien cuit. Je vais chercher ma puce à la crèche. Je remonte dans la voiture avec mon pain. Ça sent bon le pain dans la voiture. Je me bidonne en écoutant Daniel Morin. J'arrive à la maison, je m'assois. Mon homme monte de l'atelier. On va manger. Il fait beau. Les papillons, les enfants, la tarte aux poireaux, le pain. Le pain. Tu veux du pain, chérie? Oui, tiens. Oh, mais qu'est-ce que c'est écrit sur le papier du pain? J'ai 50 ans. Je pense colorectal. Eh ben, ça fait chier. Voilà, ça fait chier, le colorectal sur le pain. C'était Caro, du Vaucluse. Bonne app.
Bonjour à tous. Merci Daniel, merci toute l'équipe. C'était juste pour dire, c'était vraiment brillant, génial, cet exposé sur le salaire universel. Des bonnes paroles, vraiment, qu'on aimerait entendre tout le temps. Libérons-nous du marché du travail, soyons qualifiés à vie. On n'est plus là à quémander, on n'est plus le domestique d'un maître. Ça, c'est vraiment, vraiment un exposé très, très intéressant. Ah, qu'il vienne enfin le temps des cerises. À bientôt, Patricia, Saône-et-Loire. Bon après-midi à tous.
Au risque de me répéter, je le dis et je le répète, nous ne vivons plus en démocratie. Et on peut le dater. Nous ne vivons plus en démocratie depuis le 21 avril 2002. C'est-à-dire avec l'accession de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, et la seule alternative qui nous était proposée, c'était de choisir entre l'UMP et le Front National. C'était la fin de la démocratie. Alors il y a eu un formidable sursaut civique entre le 21 avril et le 4 mai, et puis il est sorti de ça, l'élimination de celui qui paraissait le pire, mais pendant ce temps, les idées du Front National rentraient par la place Beauvau, avec Nicolas Sarkozy, qui en plus a été élu ensuite président de la République. C'est la négation même de ce que peut être la démocratie. La démocratie, c'est étymologiquement la puissance du peuple. Et le peuple n'a plus aucune puissance, puisqu'on lui impose tout, on ne tient jamais compte de ce qu'il dit, plus jamais. Et simplement bidouille des élections avec qui ressemble à du show business, et pendant lequel l'autre bouffon fait son numéro et puis est arrivé à se faire élire en 2007 et risque de se faire réélire. Alors je crois que la mobilisation, c'est pas le 22 avril à 20h qu'il va falloir la mobilisation. C'est maintenant. Il faut absolument empêcher que les choses se passent comme ça.
Bonjour Daniel. Antigone ne triomphe pas du pouvoir. Elle ne le combat même pas. Simplement, elle lui résiste. Comme un matériau résiste à la pression, elle ne lui laisse aucune prise. Mieux, en se suicidant, elle le mutile cruellement à sa prétention, à la toute-puissance. Créon ment quand il dit à Antigone que sa mort lui suffit. C'est sa vie qu'il voulait, et il ne l'aura pas. Créon, pourquoi fais-tu ce geste? Pour les autres? Pour les dresser contre moi? Antigone, ni pour les autres, ni pour mon frère, pour moi. Créon, je veux te sauver, Antigone. Antigone, vous êtes le roi, vous pouvez tout, mais cela, vous ne le pouvez pas. Créon, tu crois? Antigone, ni me sauver, ni me contraindre. Bonjour, c'était Juliette de Marseille et un extrait du spectacle sur le chemin d'Antigone de l'agence de voyage imaginaire, une compagnie marseillaise que je viens de découvrir avec grand plaisir en Corse. C'était génial. Amis marseillais, pour notre plus grand plaisir, cette compagnie joue à Marseille du 10 avril au 5 mai au théâtre des Bernardines. À ne pas rater pour résister. Merci pour tes émissions, Daniel, et merci à tout le monde pour l'écoute.
Bonjour à tous, c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 54 ans. Alors je voulais vous dire merci à toi Daniel et merci Bernard pour ce beau cadeau à mes oreilles. Ce printemps sera révolutionnaire et amoureux. Ça branle dans le manche et on va y arriver. Voilà, c'était Aline, une Savoyarde comme Ambroise Croizat. Bisous à tous.
Les conservateurs du Parti Populaire Espagnol sentent de plus en plus le néo-franquisme. De retour à la tête de nombreuses municipalités espagnoles, il se livre à un véritable nettoyage sémantique, historique, culturel. La municipalité de Huerca Lovera, Almería, a débaptisé le théâtre municipal du nom de Rafael Alberti, immense poète, mais communiste. Argument invoqué, il ne vend pas la ville. Nous lui suggérons, pour plus de lisibilité, de lui substituer le nom de Théâtre Légion Condor, en souvenir de Guernica. En octobre dernier, la municipalité de La Zubia Granada débaptisait trois rues qui portaient les noms de l'autre grand poète du peuple, Miguel Hernández, de Che Guevara, de l'anarchiste Durruti. Nous lui suggérons de les remplacer par les noms désormais connus des assassins de García Lorca. La mairie de Grenade a rendu également hommage à sa façon au bourreau du poète en retirant du cimetière municipal une plaque d'hommage aux républicains fusillés, au cas où quelques génocidaires seraient encore vivants et à la merci de juges argentins ou chiliens. La mairesse de Elche, quant à elle, décommunise à tour de bras et renationalise. Les franquistes se faisaient appeler les nationales, les autres étant l'anti-Espagne. L'avenue du Ferrocarril est devenue l'avenue Vicente Quiles, du nom de l'ancien maire franquiste. La municipalité de Séville a pour sa part rayé de l'onomastique des rues l'actrice Pilar Bardem, trop rebelle et talentueuse. Nous lui suggérons de préférer le nom de Carmen Franco Polo. C'est plus saignant. Car al sol con la camisa, ils sont de retour. C'était Jean de Pau.
Bonjour, je voudrais rendre hommage à une grande combattante, une grande résistance qui vient de nous quitter, Liz London. Toute sa vie, Liz la rebelle s'est battue, dès son enfance déjà, à Moscou ensuite, puis avec les Brigades Rouges en Espagne en 1936. Pendant la guerre 39-45, avec les FTP, elle se bat. Elle sera emprisonnée avant d'être envoyée en camp de concentration. Viendront ensuite les années sombres du stalinisme, où son mari, Arthur London, alors vice-ministre tchécoslovaque des Affaires étrangères, sera accusé d'espionnage. À Prague, elle subira les humiliations, mais elle ne lève pas les bras. De retour en France, elle continue sa lutte pour la tolérance, l'antifascisme, contre les injustices. Jusqu'à sa dernière heure, Liz London aura été une grande dame. Chapeau bas. C'était Catherine de Créteil. Bonne journée, au revoir.
Merci pour tous ces messages qui me parviennent ici, à Madrid, où nous continuons le voyage. Aujourd'hui, on est très secoué par ceux qu'on a rencontrés, par ce qui se passe à travers toute l'Espagne. C'est l'histoire des bébés volés. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire, en tout cas les Espagnols, depuis pas très longtemps, 2-3 ans, sont hantés par ces histoires de bébés qui ont été volés, dérobés dans les maternités, dans certaines cliniques, depuis les lendemains de la guerre civile, depuis 1940 jusqu'aux années 80, pendant presque 50 ans, des bébés ont ainsi été volés. On estime à 300 000 le nombre de 300 000, oui, le nombre de cas de bébés volés. Et il y a eu un long silence. On nous a parlé d'une socialisation par le silence en Espagne. Et depuis 2 ans à peu près, ça a explosé. Ça a explosé et des quantités de gens, de mamans surtout, sont à la recherche de leurs enfants perdus, qui ont été déclarés comme morts à la naissance et qui très souvent donc ont été non pas adoptés mais volés. Et il y a aussi des gens plus jeunes de ces enfants qui sont à la recherche de leurs parents s'estimant ayant été volés ou ayant été adoptés. Ça secoue tout le pays, ça frappe en profondeur bien sûr la sensibilité, bien sûr la maternité, le cœur des gens, des familles, etc. Mais aussi ça interroge toute une société où le nationalisme catholique est encore extrêmement présent et prégnant, comme le disait notre ami Jean de Pau. C'est une bonne ouverture à l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va retrouver Liz London, qu'on avait rencontré en 1996 à Albacete. Albacete, c'est un haut lieu de la guerre d'Espagne. C'est là où s'étaient retrouvées les brigades internationales. Et c'est là qu'on les avait retrouvées en 1996, les anciens des brigades, qui, les larmes aux yeux, se retrouvaient. Et avec eux, on a pris le train jusqu'à Barcelone. Et Liz London était là. Elle nous a raconté quelques bribes de sa vie riche, héroïque, qui faisait dire à tout le monde, et je le répète, c'était une sacrée bonne femme. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut à tous. À l'heure où les médias mettent un coup d'arrêt à la campagne électorale sous prétexte que, et au débat politique sous prétexte que les règles d'égalité du CSA sont difficiles, voire impossibles à mettre en place, ben nous dans le Sud-Est, on continue à parler de politique. On a parlé vendredi dernier au Repère. Ce soir à 18h30 à Montauroux, il y a un débat organisé par rapport au thème du gaz de schiste. Demain, mercredi 4, il y a le film des entubages cathodiques qui est proposé à Carnoul avec derrière un débat. Le vendredi 5 à Montauroux, il y aura tout Solarzac en présence du réalisateur Christian Rouault. Et dimanche, ça sera la cerise sur le gâteau. On ira tous faire un gros pique-nique en bord de mer à la Seine pour manifester contre l'exploitation du gaz de schiste en Méditerranée, qui est une belle saloperie qui nous prépare. Donc vous voyez, même si les médias ne jouent pas le jeu, sur le terrain ça continue. La lutte, elle est belle et on attend avec impatience la suite. Ciao, vivre, portez-vous bien.
Salut toute l'équipe de Daniel et salut tous les AMG. Nicolas Sarkozy a fait une bronca contre les syndicats hier. Bravo, merci, c'est très gentil à lui. Et il les a accusés de faire de la politique. Mais que fait Madame Parisot du MEDEF? Vous me direz, non, c'est pas de la politique qu'elle fait. Elle n'en fait pas. Elle fait mieux. Elle la dicte, la politique.
Bonjour Daniel. Comme tous les premiers mardis de chaque mois, les AMG d'Angers sont invités à 19h30 au Zar Café, 66 rue Baudrière. Ce soir, nous débattrons avec David Kella, enseignant-chercheur en économie à l'Université d'Angers et signataire du manifeste des économistes atterrés. Nous parlerons de la politique économique, des combats idéologiques qui ont en cours en ce moment chez les économistes et entre les économistes et les responsables politiques. Rendez-vous donc ce soir à 19h30 au Zar Café à Angers.
Chers amis, le mercredi 4 avril 2012, cinquième année de la sarcocratie décadente, toute la Provence sommeille dans une pensée unique, narcotique et cataleptique. Toute ! Non ! Car Carnoul, dans le Var, un village retranché, peuplé d'irréductibles indignés, donne du fil à retordre à la pensée unique et au formatage télévisuel. À Carnoul, dans le Var, le Centre culturel va projeter le mercredi 4 avril prochain, à 19h, le film intitulé « Des entubages cathodiques » dû à la coopérative des mutins de Pangée, ou « Comment la télé vous manipule à votre insu et avec votre consentement ». Sa Majesté Télévision scène chaque soir son lot d'endoctrinement programmé et de soumission somnolente aux populations qui l'acceptent. Le tube vous entube, le tube cathodique bien sûr. Indigné, résistant, adepte de la télégitime défense, écolo de tout poil, de toute plume, rendez-vous à Carnoul dans le Var, le mercredi 4 avril à 19h à la salle Daumier pour la projection du film « Des entubages cathodiques » en présence du co-réalisateur Alain-Gilles Bastide. Qu'on se le dise, à bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, en Espagne, avec les anciens des brigades internationales.
Flight number 2, arriving from...
Celle-là, vous la connaissez?
Oh, je connais toutes. C'est dommage que je n'ai plus de voix pour chanter.
C'est en français, là.
De base, nous sommes, nous soyons toujours. C'est la lutte finale. Nous, nous et demain, la terre, je ne peux pas, sera le genre humain. Lutte finale, groupons-nous et demain la terre nationale sera le jour. Mais je ne peux plus chanter. Alors, quand la concentration ne me donnait rien, j'allais boire de l'eau à la fontaine pour donner le sein à ma fille.
Maintenant, nous sommes vieux, nous pouvons dormir, notre conscience nous laisse en paix. Toujours vert, toujours rouge, les papis et les mamies des brigades internationales, aujourd'hui, juste 60 années après, reviennent en Espagne, là où ils étaient venus, les mains nues, se battre, l'automne 1936. Ils avaient 20 ans, ils venaient du monde entier, de 53 pays, ils furent 35 000 au total, ouvriers, gens de peu, salopards en casquette, petits intellos des faubourgs, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ils croyaient ça, ils chantaient l'international, ils croyaient ça. Ils disaient ni Dieu, ni César, ni tribun, ils croyaient ça. Ils avaient 20 ans, ils venaient défendre un pays qui n'était pas à eux, défendre contre le fascisme, contre un ennemi commun, pour la paix, pour la liberté ou pour la République et cette forme supérieure de la démocratie qui était pour eux, pour certains d'entre eux, le communisme. Vous souriez, vous avez raison, mais c'est facile aujourd'hui que les cartes sont retournées. Cocu, ils furent, oui, mais la peur d'être trompé ne les a pas empêchés d'aimer à mourir. Aujourd'hui, le communisme totalitaire, religion laïque a implosé, balayé les débris d'une illusion, la question reste entière. Ils criaient « unité », ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils se sont gourés d'ennemis, certains voulaient un monde meilleur, d'autres se battaient pour le meilleur des mondes. Ils étaient prêts à donner jusqu'à la dernière goutte de leur sang, alors que je ne donnerais pas la dernière goutte d'encre de mon stylo. Ils l'ont donné, leur sang, pour écrire l'histoire de l'Espagne, du monde et des hommes. Vous direz que les temps ont changé, que la page est tournée, qu'il faut de l'oubli, sans doute. Mais attention que toute ressemblance avec des fascismes existants, rampants, montants, ne soit pas tout à fait fortuite. Dernier voyage avec les derniers survivants, les derniers magnifiques, à bord des grands mythes politico-romantiques que l'épopée pathétique du soleil noir d'Espagne a engendré dans leur petit fauteuil roulant sous les médailles, les larmes et les œillets rouges. Bien sûr, en écoutant cela, il y a des dentiers qui grincent. 60 ans après, les lésions ne sont pas toutes refermées, les haines ne sont pas repliées, vos ennemis survivent avec vous. Mais quand leur train sera reparti pour la dernière fois, quand pour la dernière fois ils descendront les Ramblas jusqu'à la mer sur un tapis de fleurs, ils nous laisseront les mêmes questions. Comment se tromper sans se trahir? Comment avoir la foi sans tomber dans la religion? Comment lutter et douter? Comment se battre et penser? Comment s'attendre à l'inattendu? Comment vivre l'irrésolu? Comment découvrir en soi des trésors de désirs insatisfaits? Comment rester vert? Comment rester rouge? Ça peut paraître curieux, mais c'est sur France Inter. Là-bas, si j'y suis avec les anciens des brigades internationales.
Bienvenidos a la ciudad de Barcelona, amigos y luchadores de la libertad. Welcome to the city of Barcelona, to Catalonia. Welcome the people who has contributed to the freedom of the world, to the freedom of Spain, to the freedom of Catalonia and to the freedom of Barcelona. Durante dos días estaréis con nosotros y espero que tendréis todas las atenciones de todos los ciudadanos como esta gran bienvenida popular y espontánea en esta estación.
Pendant deux jours, vous allez rester avec nous et j'espère que vous allez recevoir toute l'attention que vous méritez. Et j'espère aussi que vous rencontrerez votre histoire personnelle.
El paral·lel, el carrer Agó, la Gran Via, la Diagonal, tots aquests carrers, tots aquests racons de Barcelona.
Vous allez retrouver toutes ces rues que vous connaissez, le carrer de la rue d'Aragon, le Paseo de Gracia, toutes ces rues que vous connaissez si bien.
Una forta abraçada de tots els barcelonins i de tots els catalans.
Recevez
salut i força!
Trois wagons de tête du train d'Albacete à Barcelone. Ces anciens des brigades internationales se reposent, discutent, se retrouvent, boivent un coup, se marrent, s'endorment avec leurs bérets, leurs médailles, leurs insignes, leurs émotions. Certains sont venus avec leur famille, leurs épouses, leurs enfants qui les ont accompagnés, et bien sûr dans des conditions complètement différentes, parce qu'il y a des niveaux sociaux 60 ans après complètement différents. Ça va depuis des États-Unis tout à fait cossus jusqu'à des gens de la Havane qui ont eu un mal fou à venir pour se payer le voyage. Ils ont vraiment des visages, des têtes, des destinées tout à fait différentes, mais tous évidemment se retrouvent dans la même émotion. Dans ce train, il y a une femme tout à fait remarquable qui est toute de noir vêtue avec un magnifique chemisier blanc, un chignon très noir. Et cette femme, c'est Lise London. Alors on va tout de suite dire que c'est l'épouse d'Arthur London. Je ne crois pas que ça la vexe d'être la femme de quelqu'un. Cette femme est de toute façon quelqu'un. On va passer ce voyage avec elle, avec sa mémoire, avec son histoire, avec sa personnalité, avec ses repentirs, avec sa fidélité à elle-même et évidemment à son mari. Alors c'est une vie en somme qu'elle va évoquer. Pour si jamais il y avait des genoux qui arriveraient dans l'histoire de l'humanité, je ne parle pas du journal, je parle de nous tous, il faut rappeler qui fut Arthur London, mort en 86, c'était un haut responsable en Tchécoslovaquie, évidemment un communiste, et qui a été arrêté le 27 janvier 1951 et qui a été victime, avec d'autres, de procès fabriqués de toutes pièces par les conseillers soviétiques. C'est une histoire fameuse, ça a été un film fameux de Costa Gavras, avec, incarné par Yves Montand, et Lise London a été la compagne de cet homme remarquable qui a incarné et qui a permis de découvrir ce qu'était, à ceux qui n'avaient pas encore compris, ce qu'était vraiment le stalinisme. En 1936, Lise London, qui avait à l'époque une vingtaine d'années, s'engage dans les brigades internationales.
Il
J'étais très jeune. Quand je suis venue en Espagne, j'avais pas 20 ans encore. J'avais 20 ans, quoi, disons 20 ans.
Qui étiez-vous ?
Moi, je suis d'origine espagnole. Mais mon père était venu en France en 1900. Il avait 16 ans à l'époque. Pour travailler en France, c'était très pauvre, l'Aragon, d'où il venait. C'était très, très pauvre. Ça ne pouvait pas nourrir les enfants. Et les villages, d'ailleurs, étaient complètement dépeuplés. Ma mère était d'un autre village à 5 km de celle de mon père. C'était pareil. Durant tout le siècle dernier, il y a eu le dépeuplement de ces villes qui, à l'origine, étaient des villes riches. On le voit d'après ce qu'il en reste. Moi, je suis d'une famille ouvrière très pauvre. Mon père était un mineur. Et un mineur, il a commencé dans les carrières de pierre et il a fait des tunnels, tout ça. Et vous savez, à cette époque, il n'y avait pas de protection pour les ouvriers. Et quand mon père s'est marié avec ma mère, c'était en 1900, à la fin de 1911. Et donc, ils sont venus au début de 1912 mariés, n'est-ce pas, tous les deux. Et mon père, à ce moment, était déjà silicosé. Et dans cette époque-là, il n'y avait pas de sécurité sociale. Il n'y avait pas de salaire. Il n'y avait pas de secours. Et ma mère, vraiment, elle a fait tous les travaux possibles et imaginables pour qu'on ne meure pas de faim et pour qu'on puisse quand même, qu'elle puisse élever la famille, n'est-ce pas ? Alors ça a fait que, très jeune, je me suis réveillée aux idées d'un monde nouveau où il y aurait plus de fraternité, plus de... Vous savez qu'il n'y aurait pas tout d'un côté et rien de l'autre, que le travailleur soit davantage respecté et payé à la juste mesure son travail. Ça a été un idéal que j'ai eu tout de suite. Et mon père nous amenait aux réunions syndicales, il nous amenait dans les différentes... Vous savez, quand il y avait des réunions, même quand il y avait les théâtres ouvriers qui jouaient, il y avait aussi Montéus, j'ai vu Montéus, je me rappelle de Montéus, qui était venu chanter à Saint-Étienne les chants, vous savez, qui étaient si populaires bien à l'époque. Sûr. Et ça, je m'en souviens très bien, mais je me rappelle que notre adolescence, on l'a passée à Vénissieux. Oui. Et c'était au moment, d'ailleurs, où la crise économique est arrivée en France. C'était en 29.
Oui, c'est
la crise économique. Alors là, ça a été la misère, parce que là, c'était comme maintenant, on dégraissait. On n'employait pas ce mot à cette époque. Alors papa, sans travail, mon frère, sans travail, ma sœur, elle travaillait. Et moi, on m'avait demandé de travailler, après de laisser mon travail, je travaillais chez Berlier, avec un salaire supérieur qu'à ceux qui avaient de bonnes dactylos, alors que moi j'étais une très mauvaise dactylo, mais avec mes titres de stéréotypiste. Alors j'étais là chez Berlier, mais on m'avait demandé, c'était Doron qui était à ce moment-là secrétaire du Parti communiste de la région lyonnaise, et il avait demandé si je pouvais aller travailler, vous savez, pour le secrétariat technique, en même temps tenir la permanence. Il avait averti mes parents. Il dit, bon, on tâchera de lui donner ce qu'elle gagne maintenant chez Berlier. Mais vous savez, nous, les rentrées d'argent sont rares. Alors parfois, on sera longtemps sans pouvoir lui donner de salaire. Et ça, mes parents l'avaient accepté parce qu'ils pensaient que pour la cause, il fallait faire des sacrifices.
Vos parents étaient au Parti communiste ?
Non, pas ma mère. Ma mère, elle était très croyante. Mon père, lui, il était tout à fait athée. Nous, on a après suivi le chemin de mon père. Nous n'étions pas croyants. Mais on était quand même influencés par le fait que ma mère, c'était une chrétienne avec une foi absolue. Quand on était petit, ma mère nous parlait de Jésus-Christ. Alors elle nous disait que c'était l'homme qui était venu sauver les hommes sur terre. Papa disait, Jésus-Christ, mais c'est le premier communiste. C'est lui qui a lutté contre l'esclavage pour que tous les hommes soient égaux, etc., etc. Alors en définitive, nous, on était contents d'être des communistes comme mon père, parce qu'à ce moment-là, il avait adhéré au Parti communiste, au syndicat d'abord au Parti communiste. Et on était heureux d'être en même temps les adeptes de Jésus-Christ. Alors vous voyez, c'était ça notre enfance.
C'était la main tendue avant tout le monde.
Voilà, c'était la main tendue.
Quelques éléments pour se repérer dans cette histoire, peut-être, il faut remonter un petit peu avant 1936, en 1931, c'est la proclamation de la République espagnole, dont évidemment le peuple attend beaucoup, et il le prouve en 1934 par des grèves qui ont un caractère insurrectionnel et qui sont violemment réprimées par un certain général Franco. Des centaines de morts dans les Asturies, des milliers de travailleurs emprisonnés. On trouve à leur tête un syndicat anarchiste, la CNT, l'anarcho-syndicalisme étant à l'époque majoritaire et très puissant dans la classe ouvrière espagnole. En février 1936, il y a un gouvernement de Front Populaire, de Fronte Popular, qui est porté au pouvoir en Espagne. Et, je le disais, en juillet, c'est le soulèvement militaire avec, à sa tête, le même général Franco. Elisabeth Ricol, Lise London, raconte Itinéraire d'une camarade. Vous étiez à Paris en 1936 ? À quoi ressemblait 1936 ?
En 1936, je suis arrivée de Moscou. J'ai travaillé 2 ans dans l'appareil technique du Comintern comme dactylo. J'avais là-bas... Merci beaucoup. Hein. Merci. C'est à Moscou qu'on a appris qu'il y avait le coup d'État de Franco. Je suis revenue en France, c'était en septembre, c'est-à-dire un mois et demi plus tard. Et quand je suis arrivée à Paris, je suis rentrée travailler directement au Parti communiste, au 120 rue Lafayette. C'était le siège du parti à ce moment-là. Et j'ai travaillé avec Pierre Allard, qui s'appelait en réalité, mais ça je l'ai appris seulement après-guerre, il s'appelait Cerruti. Et c'était un Italien qui d'ailleurs était sénateur après-guerre et qui lui a été... Il a joué un rôle très important et dans la formation des brigades. Et également, c'est lui qui a été avec Gosna qui ont créé France Navigation, qui a joué aussi un grand rôle pour le transport des armes d'Union soviétique, où ils vendaient les armes, il fallait encore que ça arrive en Espagne, et qui avait créé cette France Navigation. Alors, quand je travaillais avec lui, j'ai été directement en contact, je dirais, avec justement le début de la formation des brigades. Vous aviez déjà et des jeunes et des moins jeunes qui venaient avec l'exposition internationale, mais dont le but était d'aller en Espagne. Alors à ce moment-là, c'était donc le 22 octobre, la date officielle de la constitution des brigades, c'était le jour où le gouvernement espagnol a donné son accord. Mais à ce moment-là, il y avait déjà des étrangers en Espagne. Il y en avait à peu près déjà 2500 à Madrid qui étaient arrivés par leurs propres moyens. Il y en avait d'autres qui combattaient dans les milices en Barcelone. Moi, je suis venue avec le 3e convoi des volontaires. C'était à la fin d'octobre. Ça devait être le 26 ou le 28 octobre. Il y en avait eu 2 qui nous avaient précédés à 2 jours, l'un 2 jours avant, l'autre 4 jours avant. Et le 3e convoi où je suis allée, moi, pour Marty m'avait demandé d'aller travailler comme la secrétaire à l'état-major à Albacete, parce qu'il n'y avait encore rien d'organisé. Et il m'avait dit, camarade Ricol, camarade Lise, est-ce que vous seriez d'accord de venir ? Mais j'ai dit, écoutez, je ne peux pas, je suis enceinte. C'est pas étant enceinte, moi, c'était en même temps pour moi la sûreté que je retrouverais mon Gérard, comme j'appelle toujours, qui lui était en Union soviétique, il était en Union soviétique à Moscou depuis déjà 33, fin 33, pour échapper à une peine de prison qui aurait été très grave, surtout qu'il était tuberculeux. Et j'étais sûre que le fait que j'avais un enfant de Gérard en moi, que ce serait, il n'y aurait pas de possibilité que ça empêche que nous nous retrouvions. Vous comprenez, c'était très important pour moi. Et Marty m'avait dit à ce moment-là, je vous promets, dans 2-3 mois, les choses seront déjà en cours, il y aura d'autres personnes, vous retournerez en France et vous accoucherez dans de bonnes conditions. Malheureusement, avec, vous savez, des transports sur les routes très mauvaises, défoncées. Alors ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu après une fausse couche et que j'ai perdu l'enfant. Alors je suis restée après à Valence, on m'a soignée. Gérard m'y a rejoint. Vous vous imaginez, mettez-vous ça dans la tête avec un pneumothorax. Il a fait la franchise, vous savez, avec les guides, là, avec un groupe. Eux, ils ont franchi les Pyrénées et ils sont allés jusqu'à Figueras à pied. Ça a été une chose. Moi, je me demande quelle force il pouvait avoir pour pouvoir accomplir toutes ces choses-là. Alors, il m'a rejoint après à Valence et après, nous sommes allés ensuite, au début de novembre, on a rejoint après les brigades internationales à Albacete.
Comment vous étiez reçu ?
Mon Dieu, c'est un de mes souvenirs les plus extraordinaires. Quand on est arrivé avec ce 3e convoi, on était 2000-2500 à peu près à l'intérieur, et ils s'arrêtaient à tous les villages quand on a traversé la frontière, et c'était les populations locales et celles qui étaient, vous savez, les voisines, même des petits villages qui venaient. Ils savaient qu'il y avait des internationaux qui arrivaient. Alors là, c'était des scènes inoubliables. Des scènes de fraternité inoubliables avec tous ces gens. Alors, ils saluaient en nous leurs frères, ceux qui venaient les aider, parce que l'Espagne se sentait absolument abandonnée. Il y avait la non-intervention, le blocus, c'est-à-dire que les autres recevaient des armes. Ils ont reçu toujours les armes, hein, les franquistes. Directement, c'était les Allemands qui les fournissaient en avion tout de suite. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils bombardaient des populations civiles, où la seule défense civile, c'était l'escadrille de Malraux. Il n'y avait pas autre chose à ce moment-là. C'est-à-dire que ça leur était pas difficile d'aller bombarder des populations qui n'étaient absolument pas couvertes par rien. Et il y a eu des bombardements terribles au début. Vraiment, c'était terrible, les bombardements. Quand j'étais à Madrid, là, j'ai assisté à de multiples bombardements, vous savez. Mais c'était épouvantable, parce que les seuls moyens, il y avait des canons anti-aériens. C'était la seule défense qu'il y avait, mais il n'y avait pas de chasse. C'était peu après l'entrée en guerre des brigades internationales. Vous savez, ils sont arrivés, eux, dans la nuit du 7 au 8 novembre, le jour de la mort de mon mari. La nuit du 7 au 8 novembre 1986.
Ça semble incroyable.
Il y avait deux dates. C'était la révolution d'octobre, la prise du palais d'hiver, et c'était l'entrée des brigades internationales à Madrid. Il est certain que nous, on luttait déjà. On luttait d'abord pour changer le monde, c'est-à-dire la lutte aussi du point de vue économique, du point de vue politique, n'est-ce pas ? Mais quand il y a eu le danger fasciste qui s'est précisé, il y a eu un ennemi. Et ça a été notre lutte constante, n'est-ce pas ? Depuis le début des années 30. J'étais jeune, vous voyez, j'avais 14 ans à ce moment-là, au début des années 30. Et donc, quand il y a eu cette agression du fascisme international, on parle de la guerre civile. Parce que c'est Franco qui l'a déclenché. Avec quel civil il a commencé ? Avec les compagnies de Marocains, de Moros, comme on dit en espagnol. Parce qu'il était, lui, justement, il était le chef de la coloniale. Et il était en Afrique du Nord. Et il y a eu le transport de ses troupes par les avions allemands qui étaient mis à sa disposition. Vous comprenez, c'était vraiment une lutte très inégale. En France, on avait des accords commerciaux avec l'Espagne qui étaient signés déjà en 1935, c'est-à-dire avant le Frente Popular, entre la France et l'Espagne. Et dans les accords qu'il y avait franco-espagnol, il y avait un point, c'était la livraison d'armes pour une valeur de 25 millions de livres sterling. D'abord, le gouvernement Blum avait dit d'accord, on va livrer les armes. 5 jours après, au retournement, on ne livre pas les armes, mais au contraire, il y a l'embargo sur les armes pour l'Espagne. Parce qu'entre-temps, il y avait le gouvernement anglais qui était ultra-conservateur, qui poussait, qui disait d'ailleurs, si vous livrez des armes à l'Espagne, si vous êtes attaqué demain par l'Allemagne, on ne va pas à votre secours. Et d'autre part, il y avait un mouvement en France, qui était un mouvement d'ailleurs de la droite, qui était quand même assez forte aussi en France, et on avait aussi les pacifistes. Les pacifistes qui avaient joué un grand rôle pendant la période après la guerre, mais ils ne se sont pas rendus compte que là, on était devant une autre guerre, et que dans cette guerre, le pacifisme, c'était tout ce qu'il y avait de pire.
C'est comme ça, madame, que vous expliquez la non-intervention de Blum.
Ah oui, c'est comme ça que je me l'explique. On a dit qu'il pleurait quand il a reçu plus tard la délégation qui avait été envoyée par le gouvernement espagnol en disant « Je sais, je comprends, mais je suis obligé de le faire », qu'il pleurait. Alors on dit, il y en a qui disent « Oh, c'était des larmes de crocodile », moi je ne le crois pas.
Je ne ferme pas les yeux, croyez-le bien, à la réalité.
Léon Blum, 16 septembre 1936.
La solution, ce qui permettrait peut-être à la fois d'assurer le salut de l'Espagne, et le salut de la paix, c'est la conclusion d'une convention internationale par laquelle toutes les puissances s'engageraient non pas à la neutralité. Il ne s'agit pas de ce mot neutralité qui n'a rien à faire en l'espèce, mais s'engageraient à l'abstention en ce qui concerne les livraisons d'armes, s'engageraient à interdire l'exportation en Espagne du matériel de guerre. Je sais bien ce que chacun de vous souhaite au fond de lui-même. Je le sais très bien, je le comprends très bien. Vous voudriez que l'on arrive à une situation telle que les livraisons d'armes puissent être faites au profit du gouvernement régulier et ne puissent pas l'être au profit du gouvernement rebelle, au profit des forces rebelles. Naturellement, vous désirez cela. Dans d'autres pays, on désire exactement l'inverse.
Cette intervention a changé le monde.
Oh mais bien sûr. Si la non-intervention n'avait pas existé, s'il y avait eu la livraison des armes qui auraient dû normalement être vendues à la République espagnole, c'est clair que la République gagnait. Quand vous voyez que des villes se sont portées la poitrine nue devant des armées qui les ont vaincues, vous comprenez? Mais ça, on ne peut pas, en continuation, la guerre, quand vous êtes après placé devant les tanks, devant les avions, devant toutes les armes modernes, c'est clair qu'après, une poitrine nue ne peut pas continuer à pouvoir gagner la victoire. Vous savez, c'est Victor Hugo qui a écrit, quand il y a eu le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, vous savez, quand il faisait la critique, il avait écrit « Le coup d'État était cuirassé, la République était nue ». C'est ça qu'il a écrit, Victor Hugo.
Et vous étiez nu.
Oui, la République était nue.
Qui étaient les gens? Vous étiez communiste, votre mari était communiste, mais les autres, est-ce qu'ils n'étaient pas tous communistes?
Non, il n'y avait pas que des communistes. Vous aviez beaucoup de... Vous en aviez de très nombreux communistes. Hein. C'était normal, on était au premier front à ce moment-là dans la lutte contre le fascisme. Mais vous aviez des socialistes, vous aviez des sans-partis, vous aviez des romantiques, des gens qui étaient des antifascistes et qui sont allés là-bas avec en même temps un romantisme, n'est-ce pas?
Malraux, par exemple. Malraux, vous le classez comme
Malraux, romantique. Moi, à la fois romantique, mais c'était un antifasciste. C'était un antifasciste.
Qu'est-ce que vous dites maintenant sur lui? Quel commentaire vous faites sur Malraux?
Je considère qu'il est resté fidèle quand même. Par exemple, sur la question de la guerre d'Espagne et son engagement aux côtés de la République, il est resté fidèle jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous savez qu'il avait toujours juré, même compris quand il était au gouvernement de Gaulle, que jamais il ne mettrait les pieds en Espagne du vivant de Franco. Et quand il y a eu d'ailleurs une délégation française, lui, il est resté sur le bateau. Il n'est pas descendu. Là-dessus, il a été très fidèle à son engagement. Et je pense que son engagement auprès de De Gaulle, n'est-ce pas? Je pense qu'il avait la même sincérité. Autrement, je ne pense pas que De Gaulle lui aurait donné sa confiance.
Pendant des mois, nous n'avons pas eu autre chose à faire que d'organiser la discipline révolutionnaire. Le soutien des ouvriers portugais et les cloches des vêtements peuvent sauver la révolte. C'est l'organisation seulement qui peut sauver la révolution.
André Malraux.
J'ai vu dans une autre maison basse les derniers mercenaires français et américains de l'aviation, découragés, jouer aux osselets par terre. Il n'y avait plus d'avion. Et le sol commençait à trembler sous un autre grondement sourd qui se répétait et qui était l'arrivée des premières brigades internationales et des premiers régiments véritablement organisés d'Espagne. Pour la première fois, en face de l'ancien désordre, commençait l'ordre. L'ordre qui montait vers ce Madrid, qui signifie maintenant nos pasaran, beaucoup mieux que ce mot lui-même.
Non, pas à l'homme ! Non, pas à l'homme ! Non, pas à l'homme !
Les jeunes ont beaucoup vu le film de Ken Loach, Land and Freedom. Quels commentaires vous avez à faire sur ce film ? Et est-ce que vous pourriez expliquer, si c'est possible en quelques mots, ce qui pouvait opposer à l'intérieur des brigades internationales ?
Vous parlez des événements de mai. Ça n'a pas joué dans les brigades internationales aucunement. Mais la différence qu'il y avait justement entre le POUM et les communistes, par exemple, disons, parce que c'est eux étant en désaccord, ils ont formé le POUM, n'est-ce pas ? Mais eux, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Il fallait faire la révolution à tout prix. La révolution d'abord, la guerre après. Et si on gagne la révolution, on gagnera la guerre. Mais pendant ce temps, les autres avançaient. Et dans un état de guerre, et quand il y a les fronts, qu'on est en train de se battre, quand il y a ensuite une deuxième guerre à l'intérieur de la guerre, qui est une guerre fratricide, parce que c'était vraiment fratricide, hein. Parce que comment maintenant, moi, en étudiant tous les problèmes, en réfléchissant depuis qu'il y a eu le cas de mon mari, puis après le 20e congrès et tout ce qui s'ensuit, c'est clair que je ne suis pas restée dans mes idées de jeune enfant naïf, n'est-ce pas ? Et là, alors, j'ai beaucoup repensé aussi aux événements de mai. Alors là, je reste complètement contre cette action qui a été prise, n'est-ce pas, avec armée, avec, c'est-à-dire porter la guerre civile à l'intérieur d'une guerre, n'est-ce pas ?
La guerre dans la guerre.
Mais la guerre dans la guerre. Mais le jugement que nous avons donné de ces hommes, on les jugeait trotskistes. On disait c'est Trotsky, ça a été organisé par Trotsky. Ça, c'était absolument faux. La réalité, c'est que c'était des révolutionnaires attardés sur les idées de Bakounine du siècle dernier. Alors, je considère donc, c'était le fait de révolutionnaires attardés, mais pas de fascistes.
Alors bien sûr, cette histoire, la division à l'intérieur, d'un côté le POUM et les anarchistes, et de l'autre côté les communistes manipulés par les agents soviétiques, c'est ainsi que Arthur Koestler deviendra violemment anticommuniste, je l'ai déjà dit, et comment Orwell dénoncera l'influence du communisme soviétique dans cette histoire. Pour ce qui concerne Lise London, elle est toujours communiste, même si elle n'a plus la carte du parti depuis l'intervention soviétique en Afghanistan. Elle défend toujours l'idéal de sa jeunesse, sa foi en un meilleur devenir de la société, mais elle dénonce inlassablement aujourd'hui l'aveuglement tragique, la foi inconditionnelle qui fut celle des communistes envers Staline et l'Union soviétique, entre autres. Elle parle inlassablement du risque fatal de ne plus douter, de perdre le doute, c'est-à-dire la liberté.
On avait une foi inconditionnelle. Tout ce qui venait de l'Union soviétique était absolument sacré. Staline, on en avait fait notre dieu. Alors qu'on était athée, n'est-ce pas ? On s'était fabriqué notre propre dieu.
Une religion laïque.
N'est-ce pas ? C'était une religion laïque. Et ça, c'était la grande erreur. C'était la grande faute de notre génération. Elle avait des qualités admirables, la génération antifasciste communiste, mais elle a eu cette chose-là. Et ça, j'ai mes forces de le dire à la jeune génération. Il faut tenir compte que cet aveuglement, dont nous sommes rendus coupables de cet aveuglement, n'est-ce pas ? On avait perdu notre sens critique, on avait perdu ce que Marx et puis les chercheurs appellent le doute, n'est-ce pas ? Et ça, vous devez tenir compte de cela. La foi que nous avions dans un idéal qu'on considérait juste, et que nous continuons d'ailleurs de considérer juste, d'apporter au monde plus de liberté, de fraternité, plus d'égalité, et en même temps plus de respect pour le monde du travail. Alors ça reste toujours juste. Mais n'oubliez pas que notre erreur, l'erreur de notre génération, c'est d'avoir été des inconditionnels, d'avoir oublié notre esprit critique, le doute, et d'avoir appliqué sans aveuglément tout ce qui venait de l'Union soviétique, y compris par exemple quand on considérait Trotsky comme étant l'âme damnée, que c'était l'homme de Hitler, que c'était, vous comprenez, que c'était l'espion, l'anticommuniste, vous comprenez ces choses-là. Et nous, on considère à l'époque vraiment que Trotsky était vraiment l'ennemi numéro un dans le mouvement ouvrier. Donc, on appliquait ça, même sans savoir ce que c'est, ni Trotsky, ni ce qu'il voulait, ni rien du tout. On ne connaissait pas. Et puis dans notre génération, à part les intellectuels, vous savez, la lecture n'était pas notre fort. vous savez. Mais on suivait avec les mots des mots d'ordre sans les comprendre souvent et en les appliquant.
À partir de quand vous êtes-vous aperçu, votre mari et vous, de la vraie nature du communisme?
Ben, quand c'est tombé sur nous, quand le coup est tombé sur nous, c'est-à-dire quand mon mari a été arrêté, quand il y a eu le procès, vous savez qu'avec les aveux, pendant un moment, alors que j'ai défendu jusqu'au bout et que je pensais qu'il a écrié son innocence, quand il y aurait le procès, on ne nous a pas admis au procès, on ne l'a pas vu le procès, on entendait seulement les voix dans la radio, c'est-à-dire le compte-rendu par la radio. Et j'ai entendu mon mari qui disait, ça je connaissais suffisamment le tchèque pour comprendre, quand on lui demandait s'il plaidait coupable ou non coupable, et qu'il a dit qu'il plaidait coupable. Et qu'ensuite il a commencé à répondre, à dire espionnage, ceci, cela, etc. Moi le ciel me tombait sur la tête d'abord, parce que des aveux, c'est terrible des aveux. Parce que même moi, qui me suis battue jusqu'au moment du procès, qui ai cru qu'au moment où mon mari... Parce que je ne savais pas que mon mari était dans le procès. On m'a toujours dit qu'il était en garde à vue. Pendant 2 ans, c'était long, hein, mais en garde à vue. Et j'ai appris qu'il figurait parmi les 14 accusés du procès Slansky en me rendant au travail le matin, à l'ouverture du procès, quand c'était annoncé dans la presse « Aujourd'hui commence le procès contre la bande de traîtres, de terroristes dirigés par Slansky ». Et le tableau où figurait dans les 14 accusés le nom d'Arthur London. C'est comme ça que j'ai appris que mon mari était donc un des accusés.
Vous êtes ici pour avouer vos crimes. Vous devez tout avouer.
Avouer quoi? Qui êtes-vous?
L'aveu, un film de Costa Gavras.
Avouez vos crimes! Avouez qui vous êtes!
1969.
Je suis le vice-ministre des Affaires étrangères.
Rien du tout!
Vous n'êtes qu'un numéro! Votre numéro! Votre numéro! Numéro 3225. Posez-moi des questions précises.
Qu'est-ce que vous me reprochez?
Vous savez très bien! Vous êtes ici pour avouer et vous avouerez!
Je vais avoir un responsable.
Je vous ferai avouer! Vous avouerez!
Au début, on cherche à aider le parti. L'aider à voir clair. Voir clair en soi-même et comprendre pourquoi on est là. Quelle faute vous y a conduit? On est tout disposé à faire son autocritique, à admettre des erreurs qui ont porté préjudice au parti. Les années de lutte et de discipline, toute notre éducation, nous portaient à croire que le parti ne se trompait jamais, que l'URSS a toujours raison. Combien de fois avons-nous dit tout fiers de cette humilité qu'il valait mieux se tromper avec le parti qu'avoir raison hors de lui?
Vous êtes là pour une raison très grave. C'est le parti qui a ordonné votre arrestation. Nous sommes chargés de vous interroger. C'est une affaire internationale d'espionnage et de trahison contre l'Union soviétique et notre pays. Votre devoir est d'aider à l'établissement de la vérité.
Je suis prêt à répondre à toutes les questions.
Très bien. Où et quand êtes-vous entré en relation avec les services américains dirigés par Landels? Comment avez-vous été recruté par l'espion américain Noel Field? Avez-vous collaboré avec d'autres espions américains dehors de Noel Field?
Mais jamais, nulle part, par personne.
Répondez aux questions! Cette affaire fera tomber des têtes! Nous avons toutes les preuves! Nous employons des méthodes dont vous n'avez pas idée! Vous avouez vos crimes! Votre sort dépend de vous!
Avouez? Et avouez quoi?
Et là, dernièrement, pour le numéro spécial pour les Brigades internationales, on a demandé que je fasse un article. Mais comment était mon article? Justement, en éclairant les côtés lumineux et en éclairant les côtés sombres et en demandant que la jeunesse, tout en étant héritière de nos qualités de l'époque, qui était quand même, c'était magnifique.
Magnifique.
Cette camaraderie, tout cela, n'est-ce pas? Et puis, comment cette fois, il faut lutter, le fascisme ne passera pas, etc., etc. Mais surtout, ne copiez pas notre côté qui est
aveuglement.
Côté sombre, notre aveuglement. Et ça, je leur dis.
C'est pas parce que le stalinisme et en grande partie le communisme a été un aveuglement dramatique qu'il faut dénoncer que ce pourquoi vous vous êtes battu tout au cours de votre vie est discrédité.
Absolument. C'est mon opinion, c'était aussi l'opinion de mon mari.
C'était une nouvelle version d'un entretien de Daniel Mermet avec Liz London, réalisé le 19 novembre 1996 dans le train Albacete-Barcelone. À voir sur ce sujet L'aveu, le film de Costa Gavras, adapté du livre éponyme d'Arthur London, l'époux de Liz London. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter, à la rubrique Émission. Là-bas, si j'y suis, et sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique, aujourd'hui, Cédric Lalanne et Ronan Mahé, réalisation Bertrand Chaumeton et Franck Adéret. Assistante Marina Touillez, chef du répondeur Grégory Salomonovitch qui attend vos messages au 01 56 40 37 37.
MMA, c'est aussi le premier réseau social d'assurance pour les professionnels ?
Bien sûr. Moi, j'exerce une profession libérale et je me suis inquiété du niveau de ma retraite. Je voulais de vraies réponses.
Et alors ?
Zéro tracas. MMA l'a fait. Grâce au diagnostic personnalisé retraite MMA, j'ai pu constituer pour moi et mes collaborateurs une retraite complémentaire dans un cadre fiscal avantageux.
MMA l'a fait ?
Bien sûr. C'est qui les clients pros ?
C'est nous !
Offre soumise à condition.
Si 100% des Français ne peuvent pas être champions olympiques de canoë-kayak, c'est parce qu'un canoë, en appartement, ça prend beaucoup trop de place. En revanche, avec EDF, tout le monde peut devenir un vrai champion des économies d'énergie. Il suffit de se rendre en boutique pour rencontrer un conseiller EDF, apprendre à faire des économies et améliorer son confort.
Rendez-vous dans votre boutique EDF, votre conseiller vous y attend. Trouvez l'adresse de la boutique la plus proche de chez vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter et l'Opéra Comique présentent La Muette de Portici. Bousculant les conventions, cet opéra d'Auber met en scène la révolution du peuple de Naples contre l'occupation espagnole. Dans une mise en scène d'Emma Dante et dirigée par Patrick Davin à la tête de l'orchestre du Théâtre Royal de la Monnaie. Retrouvez La Muette de Portici du 5 au 15 avril à l'Opéra Comique, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Après le journal, vous avez rendez-vous avec Frédéric Lodéon. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Et les informations, Laetitia Gaillet.
Il reste membre du conseil d'administration de BSkyB, mais James Murdoch démissionne de la présidence et c'est Nicolas Ferguson qui lui succède. Les précisions de la chaîne de télé payante britannique aujourd'hui, suite à l'affaire en fait des écoutes téléphoniques clandestines. Cette démission de James Murdoch, fils de Rupert Murdoch, le mania de la presse, est la suite du revers encaissé en novembre dernier quand plus de 40% des actionnaires indépendants de la société avaient voté contre sa réélection à la présidence du conseil d'administration de BSkyB. En France, à gauche toute pour François Hollande dans la campagne présidentielle, lors d'un meeting aujourd'hui à Tours, le candidat socialiste s'est dit sérieusement de gauche, une gauche sérieuse, a dit François Hollande, qui ne décevra pas. Faisant référence à la montée dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon, le candidat socialiste a joué l'apaisement. Pas question, dit-il, de prendre part à une querelle au sein de la gauche. François Hollande préfère s'en prendre au candidat Sarkozy en dénonçant ses attaques hier contre les syndicats. Autre attaque contre Nicolas Sarkozy aujourd'hui, celle formulée par le syndicat de la magistrature. Réputé à gauche, il accuse le président candidat d'instrumentaliser l'affaire des islamistes radicaux de Forsan Aliza. 13 des 17 islamistes radicaux interpellés vendredi dernier seront mis en examen d'ici la fin de la journée. Certains d'entre eux sont même soupçonnés d'avoir évoqué l'an dernier un projet d'enlèvement d'un magistrat lyonnais. Mais le procureur de Paris, François Molins, a relativisé ce matin le degré d'avancement du projet. La Syrie, droite dans ses bottes. Le régime syrien a envoyé aujourd'hui des renforts militaires sur le terrain et ce malgré la promesse faite à l'ONU de retirer ses chars d'ici une semaine. Les violences ont déjà fait 10 nouveaux morts aujourd'hui dans le sud, le nord-ouest du pays, mais aussi près de Damas. Une délégation de la junte malienne qui a renversé il y a 15 jours le président Amadou Toumani Touré est actuellement reçue au Nigeria. Sur le terrain, les militaires putschistes sont soumis à un embargo des pays voisins et au nord, les islamistes armés semblent aujourd'hui gagner du terrain sur les rebelles Touareg. Eux qui contrôlent désormais Tombouctou ont commencé aujourd'hui à distribuer des vivres à la population, des vivres pris en fait à un service public malien et à la Croix-Rouge. Le Guatemala a ratifié aujourd'hui le statut de Rome qui régit la Cour pénale internationale. Il devient donc le 121e État à reconnaître la compétence de la CPI. Seuls deux pays d'Amérique centrale ne l'ont pas encore fait, le Nicaragua et le Salvador. Aux États-Unis, les primaires républicaines continuent cet après-midi. Les électeurs des États de Washington, du Maryland et du Wisconsin ont commencé à se rendre aux urnes. Mitt Romney est donné favori pour ces trois scrutins face à Rick Santorum. Virgin Mobile aura sa box. L'opérateur de téléphonie mobile a annoncé aujourd'hui le lancement donc de sa première box. Elle sera accompagnée de deux offres quadruple play, internet, téléphone fixe, mobile et télé, avec, dit-on, des prix agressifs pour concurrencer notamment Free. Ce sera donc Gilles Simon. Guy Forget a fait son choix aujourd'hui. Le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis a choisi donc Simon pour remplacer, selon Guy Forget, mieux classé que Gasquet, qui souffre en plus d'une blessure au coude. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Nous enregistrons le jeu des 1000 euros en public cette semaine dans les Hauts-de-Seine. Mercredi 4 avril à Ville d'Avray à 20h30 et jeudi 5 avril à Courbevoie, de même à 20h30. Les sélections se font à la même heure.
France Inter, la différence.
Il paraît que c'est à vous, Frédéric Lodéon.
Ah ben oui, j'en suis bien content. Merci Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Le violon si petit et tant de possibilités. Oui, c'est incroyable. Quatre cordes, un petit chevalet, une mèche faite de crins de cheval, un bois de Pernambouc pour l'archer, un peu d'ébène, un peu d'épicéa. Et voilà. Et la magie continue depuis des siècles et des siècles. Alors je rappelle que le grand Ivry Gitlis, violoniste, aura sa fête. On va lui faire sa fête, carrément, à Salgavo, ce soir, à 20h30. Il reste quelques places, c'est pour ça que j'en parle. Donc il y aura plein d'artistes autour de lui, Martin Arguerie, Jean Bamillet, Itamar Golan, Van Mardirossian, Nakar Yakov, le trompettiste, Maxime Vengerov. Tiens, le voici, Vengerov. Il nous a manqué parce qu'il a arrêté de jouer du violon quelque temps. Il a dirigé pendant ce temps-là, puis il est revenu à son cher instrument. Et on va pouvoir profiter d'un déluge de virtuosité à travers la ronde des lutins, scherzo fantastique d'Antonio Bazzini. Thank you. La ronde des lutins, scherzo fantastique d'Antonio Bazzini, qui a été un violoniste admiré par Paganini, il a été professeur de Puccini, il était bien placé. Oui, entre ceux qu'il admirait et ceux qu'il a formés, un auteur dont on ne connaît pratiquement que cette ronde des lutins aujourd'hui, mais enfin, elle vaut déjà le déplacement. Et Maxime Vengerov l'a enregistré avec les Virtuosi, l'arrangement avec orchestre de Mikhail Paramovski, et au piano, on a entendu Vague Papian. Donc, Vengerov, aujourd'hui, Salgavo, alors si vous êtes loin de Paris, bien sûr, ben, vous pouvez participer à travers ce programme, là, maintenant, à ce qui va se passer, en partie, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses. On parle aussi de la venue de Jean-Louis Aubert, par exemple,